Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui quatre grands auteurs dans cette table ronde. Quatre grands auteurs qui exercent dans des domaines assez différents et que je vais vous présenter rapidement. Donc Christine Cachor, américaine, jeune auteure dans le domaine de la fantaisie. Une fantaisie déjà très remarquée puisque son premier roman a eu de nombreux prix. Elle a déjà été traduite dans 17 langues et vous pouvez lire d'elle, publié chez Orbit, Gressling, il est sur la table, mais verticalement, vous le verrez mieux, et Rouge, qui est à côté. Donc, Sylvie Miller nous aidera à dialoguer entre le français et l'anglais avec Christine. Jacqueline Carey, américaine elle aussi, auteure de fantasy, son cycle de Cuchiel a été un grand best-seller aux États-Unis. Il est maintenant disponible chez Bragelonne. Le voici, le tome 1, La Marque, que vous trouverez à côté, chez les libraires. Lionel Davoust nous aidera à dialoguer avec Jacqueline et à échanger entre le français et l'anglais. Et nous avons aussi deux auteurs français, Charlotte Bousquet, auteur protéiforme qui a écrit dans de nombreux domaines. Ce n'était pas une insulte. Charlotte a écrit des contes, des nouvelles, des romans. Elle a écrit des romans historiques, elle a écrit du fantastique. Je crois que c'est quand même le fantastique son intérêt dominant. Nous allons surtout parler aujourd'hui d'un de ses romans récents qui s'appelle La Marque de la Bête, dont on peut dire, je crois, que c'est un roman de fantastique. Enfin, elle nous dira si elle refuse l'étiquette, qui est publié chez Mango dans une collection qui est censée être destinée aux grands adolescents, disons, dans la collection Royaume Perdu. Je pense qu'on discutera ensemble de est-ce que c'est vraiment un roman pour jeunes. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Et enfin, Heyerdahl.
Qui n'est là que pour traduire Charlotte.
Heyerdahl, qu'on ne présente plus et qui de toute façon ne nous laisserait pas le faire. Un des grands auteurs de science-fiction française. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlerons surtout de ses thrillers, dont le dernier vient de sortir, donc Transparence. Et Résurgence, que vous trouverez tous les deux à la librairie, qui ont été publiés au Diable Vauvert. Et au-delà du fait que ces quatre auteurs mettent en scène des héroïnes qui sont des femmes d'exception et des personnages inoubliables, je crois qu'ils ont, dans ce qu'ils nous expriment, des points communs qui sont assez troublants et dont on va avoir envie de discuter. Donc je vais commencer par me tourner vers Charlotte. Je ne sais pas si vous connaissez La Marque de la Bête. Charlotte revisite l'histoire de Podane. Elle la revisite d'une manière extrêmement troublante et brutale, beaucoup plus violente que la version édulcorée que nous avons habituellement en main, puisque dans le récit que nous livre Charlotte, Bruna, dont la mère est morte à sa naissance, est élevée par son père, qui tente de la violer quand elle atteint l'adolescence. Et au cours de cette scène assez brutale, Bruna tue son père et s'enfuit du château dans lequel elle vivait. Mais à partir de ce moment-là, elle sera hantée par le remords, chargée d'un fardeau de culpabilité terrible, hantée par une phrase qui la poursuit, une fille doit toujours obéir à son père. Elle abandonne progressivement son humanité pour se laisser gagner par des pulsions meurtrières qui atteignent un degré d'une intensité rare, puisqu'elle a des pulsions cannibales. Je ne vous en dirai pas plus. Vous aurez compris que le roman est poignant, qu'il est dur. Donc je voudrais tout de suite demander à Charlotte si elle l'a écrit en le concevant comme un roman pour jeunes, et si elle pense qu'il s'adresse aux jeunes.
Oui, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, marche le micro ou pas? Oui.
Alors oui, puisque il a été conçu pour s'intégrer dans la collection Royaume perdu que dirige Xavier Mauméjean et qui s'adresse à un public d'adolescents. Donc en fait, mon idée était de reprendre le conte de Podane, parce que c'est un, on va dire que c'est un conte qui me tient particulièrement à cœur, et d'essayer de voir pourquoi, enfin d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, c'était un conte qui n'était, dont on ne parlait quasiment jamais, par exemple, en psychanalyse, ou qui était simplement considéré, fait de manière édulcorée, avec les jolies robes de Podane, et voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille, quand elle est effectivement abusée par son père, mais ça peut être abusée aussi par quelqu'un de sa famille. Et comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus, et comment on peut vivre avec ça, et comment on peut essayer de surmonter ça. Je crois que c'était vraiment les questions que je me posais, et c'est des questions pour moi qui peuvent se poser quand même assez tôt, dès l'adolescence, quoi.
Mais je crois qu'on ne va pas abandonner ce fil conducteur en se tournant vers nos autres auteurs. Et commençons par Jacqueline Carré. Vous avez créé le personnage de Phèdre. Phèdre est a un statut social extrêmement complexe, puisqu'elle est à la fois une prostituée, une courtisane, mais on pourrait dire qu'elle est aussi une geisha. On pourrait dire aussi qu'elle est une grande prêtresse, puisqu'elle elle honore un culte qui lui impose d'ailleurs un certain nombre d'obligations difficiles. C'est une esclave peut-être en même temps. C'est en tout cas une femme qui ne peut accéder au plaisir que par la souffrance. Une masochiste, pour employer un langage plus classique. C'est aussi une espionne. C'est une espionne redoutable au cœur des intrigues et des complots d'une cour extrêmement colorée. Sa devise, c'est « aime comme tu l'entends ». Mais c'est une histoire de mort, de violence, de menace, extrêmement dense, extrêmement ambiguë. Et pour avoir écouté Jacqueline Carré dans d'autres tables rondes, juste avant celle-ci, je l'ai entendu dire qu'on écrit des histoires sur des mondes dans lesquels on aimerait vivre. Et après avoir lu ce roman extrêmement dense, difficile, chargé d'émotions, j'avais envie de l'interroger sur trouvez-vous notre monde trop calme, trop paisible? Que cherchez-vous? Celui-ci est-il celui dans lequel vous aimeriez vivre?
Well, of course, if I were to live in Teradange, I wouldn't be myself. I would be far more exceptional. I would be a larger than life character like the ones I write.
Bien sûr, si je devais vivre en Terre d'Ange, je ne serais pas moi-même, je serais beaucoup plus exceptionnel. Je serais un personnage vaste et haut en couleur.
I blanked out right now.
Je suis désolé, j'ai planté.
When we write wish fulfillment worlds like that, I think somebody called it something like a inoculated time travel, where you'd love to go back to the past, only sanitized, with plumbing and vaccinations. So there's a reason we call this genre fantasy. The reality would certainly never live up to what we create on the page, but that's why it's fun to escape into the pages.
Donc ce qu'on dit en fait quand on parle de ces mondes qui en quelque sorte exaucent les souhaits qu'on a, c'est qu'on parle parfois de voyage dans le temps assaini, c'est-à-dire qu'on recrée un passé qui est assaini, c'est le un peu en tout cas ancien, pas forcément médiéval mais c'est ancien, mais on a la plomberie, la vaccination, tout un tas de progrès modernes, et c'est bien la raison pour laquelle on parle finalement de fantasy. Et si on allait dans ces mondes-là, probablement qu'ils ne satisferaient pas les attentes qu'on en a.
Donc vous liez fantasme et fantaisie, avec une étymologie commune peut-être.
Exactly, yeah.
Exactement.
Je vais me tourner vers Christine Cachor. Nous aurions pu parler ici de Grasling, avec son héroïne qui devient assassin au service du roi, mais je vais vous proposer de parler de Rouge. Rouge est l'histoire d'une jeune femme qui est un monstre. C'est en tout cas comme ça qu'elle se qualifie elle-même et que les autres la désignent. Mais sa monstruosité, c'est sa beauté tellement écrasante qu'elle en devient une arme redoutable, et le pouvoir de fascination qu'elle exerce sur les autres et qui est tellement intense qu'il est insupportable pour elle-même. Elle ne peut pas se regarder dans un miroir. C'est trop épouvantable. Sa flamboyante beauté lui permet de séduire et de manipuler qui elle veut. Elle ressent perpétuellement, tout au long du récit, une souffrance terrible pour toutes sortes de raisons physiques, mais dont une des plus récurrentes sont ses douleurs menstruelles, c'est-à-dire les plus typiquement féminines, qu'elle porte en même temps que sa beauté comme une malédiction. Elle est infiniment femme, une espèce d'hyper-femme. Et ses pouvoirs qu'elle a, ses pouvoirs purement féminins, elle les porte comme une malédiction et elle cherche à gagner sa liberté et à prendre le contrôle de ses pouvoirs. Je voulais demander à Christine, mais peut-être que d'autres aussi auront envie d'y réagir, est-ce que le fait de détenir des pouvoirs qu'on n'arrive pas à maîtriser, et en l'occurrence des pouvoirs purement féminins, c'est vraiment une thématique féminine? Je ne connais pas beaucoup d'histoires où des hommes, des personnages masculins, détiendraient des pouvoirs physiques en particulier, ou des pouvoirs de séduction, qui les effraieraient eux-mêmes. Est-ce que cette thématique, est-ce que cette histoire aurait pu être incarnée par un homme?
That's a very interesting question.
C'est une question très intéressante.
I think the story incarnated by a man would be a completely different story.
Si l'histoire était incarnée par un homme, ce serait une histoire totalement différente.
I had a hard time when I was writing Rouge.
Ça a été difficile pour moi quand j'écrivais Rouge.
With Graceling, it was very easy to make it, you know, strong woman, very feminist story, because she's out there doing very masculine things.
Donc pour Graceling, c'était beaucoup plus facile parce que j'écrivais une héroïne féminine mais forte en même temps et qui faisait des choses très masculines.
But I wanted to explore what a feminist story would be like without sort of turning my main character into a pseudo man.
Et c'était beaucoup plus difficile d'écrire une histoire féministe où mon personnage féminin ne serait pas une espèce de pseudo-homme, donc de pâle copie d'homme.
And so, well, I'm kind of flailing a little with what I want to say, but...
Je cherche mes mots, c'est pas facile.
She identifies so strongly as a woman that I just don't think... It could be the story of. I mean, every person has their own story, and there certainly could be a man in the world who has similar issues. I do believe that. But
donc en fait, ce personnage-là finalement est tellement féminin que je ne pense pas que un homme pourrait avoir ce type de réaction. Bien que il y a tellement de gens différents sur Terre, enfin dans le monde, que peut-être qu'il se trouve un homme qui pourrait avoir ces problématiques-là quelque part, sait-on jamais.
But maybe it's more accurate to say that I could not have written that story.
Et en fait, il serait peut-être plus juste tout simplement de dire que moi, j'aurais pas pu écrire cette histoire avec un personnage masculin.
Alors c'est intéressant, nous avons là un personnage qui est un espèce de concentré de ce qu'est l'essence féminine et qui se construit par un processus qu'on va retrouver peut-être un petit peu sous des formes similaires chez nos différents auteurs. Je me tourne vers Ayerdal, qui a créé l'inoubliable personnage de Anne X, que vous avez découvert dans Transparence, et sans doute bientôt, si ce n'est déjà fait, dans Résurgence, où elle réapparaît. Je vous rappelle quand même l'enfance de Anne X. Elle a été abusée sexuellement par ses parents et quelques amis à l'âge de 12 ans. Elle les a tués à coups de sabre à l'âge de 12 ans, des débuts difficile dans la vie, mais ces séquences de viol par les parents ou la famille, je crois qu'on vient déjà de les évoquer. Est-ce qu'on est en train de voir émerger un schéma cette construction de ce qu'est une femme d'exception. Les femmes chez Heyerdahl, et pas seulement dans Transparence, sont des femmes qui agissent et qui ont le goût du pouvoir et qui aiment agir sur le monde. Je voulais demander à Heyerdahl et puis peut-être aussi à nos autres auteurs si le fait de commencer par avoir un statut de victime et en particulier être victime d'un viol, ce qui est quand même une manière, je crois que c'est la meilleure manière qu'on puisse imaginer pour une femme de devenir une victime, si j'ose dire. Est-ce que c'est le passage obligé pour devenir une femme d'exception? Est-ce qu'il faut commencer comme ça? Être une victime, se venger, se rebeller, devenir une meurtrière et découvrir au passage les pouvoirs que l'on possède, dépasser ces pouvoirs, les maîtriser pour acquérir sa liberté? Je suis troublée par le fait qu'on a rarement ce cheminement pour décrire des hommes qui deviennent des héros. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce cheminement pour imaginer ce que sont des vraies héroïnes? Yael Heyerdahl.
C'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'Anix a au fil de sa vie d'exceptionnel, c'est son rapport à la violence. Cette propension qu'elle a plutôt que d'intenter un procès à quelqu'un, ou de lui mettre une paire de claques ou de lui dire « gros con, casse-toi », c'est de lui couper la tête, tout bêtement. C'est un réflexe de protection qui est né de son enfance martyre. Et je pense que c'est cette violence qu'elle dégage est expliquée par cette enfance martyre, mais qu'elle n'explique pas le reste. Si elle devient exceptionnelle, c'est pas parce qu'elle a été martyre, elle devient exceptionnelle parce qu'elle est en permanence amenée à se cacher des autres, ce qu'elle fait très bien. Elle est en permanence amenée à échapper à la loi, à échapper au regard des hommes, à échapper au désir et à se construire une vie qui soit totalement marginale dans une société qui catégorise tout le monde. Et c'était plus facile pour moi de rendre ce personnage petit à petit sympathique, malgré le nombre de meurtres qu'elle commet, en justifiant, ou plus exactement en expliquant une partie de sa violence parce qu'elle avait subi enfant. Mais je ne crois hélas pas qu'on devient violent uniquement pour des raisons d'enfance martyre.
Oui. Je me tourne vers les autres auteurs qui ont peut-être envie, puisqu'ils se reconnaissent peut-être un petit peu dans ce schéma d'une manière ou d'une autre. Qui veut réagir?
Yeah, this was one I wanted to address because I tried to actually take that convention and sort of turn it inside out. Phaedra is never a victim. She, I don't know if you have this phrase, but in English we say she owns her own sexuality.
Oui, effectivement, c'était un thème sur lequel je voulais réagir. Je voulais justement un peu réfléchir à cette convention et en fait la renverser. Ce qu'il y a d'important avec Phèdre, c'est qu'elle n'est jamais une victime. Comme on dit, finalement, elle est la maîtresse, elle possède véritablement sa propre sexualité.
There's a prophetic phrase that's spoken of her that we had some trouble with last night. But it is that which yields is not always weak. And I really wanted to explore in her character strength that is portrayed in a completely different way than the usual overt manner of heroism.
Il y a une phrase un peu prophétique qui la concerne dans ce livre, qui est « Celui qui se soumet n'est pas forcément faible ». Et je voulais un petit peu explorer c'est-à-dire la question de la force d'une façon complètement différente et qui sortirait un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'héroïsme habituel.
Il est clair qu'on en sort parce que on est là dans une relation sadomasochiste et on dit traditionnellement que le meneur de jeu dans une relation sadomasochiste, c'est la victime. La manière dont Jacqueline Carey nous l'illustre est très impressionnante puisque Phèdre accepte d'aller jusqu'aux limites de la mort. Elle a le droit de donner un signal pour arrêter les tortures qu'elle subit, mais elle se refuse à donner ce signal. Elle est prête à mourir. Donc elle a gagné sa liberté, mais à un prix très fort.
But it is her own choice with a little help from the gods.
Mais c'est son propre choix avec un petit peu d'aide de la part des dieux.
Charlotte, Christine.
Donc par rapport à la victime originelle, on va dire, c'était ça la question. C'est, disons que pour la marque de la bête, étant donné que ça part de, on va dire, la matière des contes quand même, et que la plupart des contes dits de fées sont quand même extrêmement violents et touchent à des tabous, dont le tabou de l'inceste, il était, pour moi, c'était assez naturel que l'héroïne ait à faire face à cette tentative de viol de son père. Après, c'est pas la condition sine qua non pour devenir quelqu'un, une personne d'exception. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était plutôt de jouer avec la limite aussi du, même si c'est, le terme de jouer n'est pas forcément très bon, c'était de savoir surtout jusqu'où on peut laisser faire, parce que avant qu'il y ait cette histoire d'inceste, elle a quand même un père qui tue, qui viole, qui se comporte comme un monstre, et elle laisse faire. Et c'est plutôt qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné on dit non. Je crois que c'était vraiment et c'est à partir de là plus qu'on peut parler d'héroïne ou de personne d'exception. Mais du coup, le fait d'être capable de dire non ou de prendre son envol ou de ne vient pas par ce côté victime, mais justement par une sorte d'élan vital peut-être. Alors après, est-ce que le fait que beaucoup de récits, il y ait des traumatismes d'enfance à l'origine, il y ait des orphelines, tout ça, c'est peut-être aussi parce que c'est peut-être plus simple de déclencher ce mécanisme.
Voilà. Christine, Rouge est une victime, mais d'une manière un petit peu différente, puisque elle est victime de son propre pouvoir de séduction qui est trop intense. Elle n'ose plus avancer à visage découvert, elle se dissimule. Elle est victime de son pouvoir et de ce que cela déclenche chez les autres. Concrètement, si elle relâchait son contrôle, elle se ferait violer toutes les 3 minutes.
Maybe every 10 minutes.
Peut-être toutes les 10 minutes.
Yes, when I was writing Fire, I was constantly trying to create this careful balance.
Lorsque j'écrivais Rouge, en fait, j'essayais de perpétuellement respecter cet équilibre.
Because I didn't want her to seem like victim, 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 constantly.
Parce que je voulais pas qu'elle apparaisse constamment comme toujours victime, victime, victime.
But I needed to convey that these dangers do exist in her life because this is the way people are, and this is what would happen if someone had her powers.
Mais je voulais quand même montrer ce qui pouvait arriver avec quelqu'un qui possède un pouvoir de cette nature. Si on avait ce genre de pouvoir, c'est le genre de situation auquel on serait confronté.
And I was also trying to manage her, you know, character arc, wherein she, at the beginning of the story, isn't comfortable using her powers.
Et donc je voulais aussi montrer finalement ce type de personnage pour lequel il est vraiment pas facile au début de se trouver confronté à ses pouvoirs.
Because her father had the same powers, and she has the terrible, and used them very badly, used them to manipulate and control people.
Parce qu'en fait, son père avait les mêmes pouvoirs et les a utilisés terriblement mal, justement, en manipulant des gens.
So she's trying to find the way to be a monster in the world without being like her father.
Et donc, elle essaie de trouver un moyen, finalement, d'être un monstre dans le monde, mais en étant différente du monstre qu'était son père.
And I was going to a point, and now, hang on, I lost it. What was I going to say? Oh,
it was about
the victim, and oh, I remember. And so I think it's important that in addition to having to be kind of generally victimized, she also, she killed her own father to stop him from doing what he was doing. She does a lot of very powerful things in the book, so I'm working with that balance, you know.
Et donc, en fait, je ne voulais pas seulement qu'elle soit donc victime. Elle n'est pas que victime, puisque finalement, elle agit. Enfin, elle tue son père pour...
Est-ce que je vous l'avais dit?
C'est l'auteur qui l'a dit. Donc, en fait, elle tue son père pour l'empêcher de nuire et l'empêcher d'avoir un contrôle sur elle.
Sorry about the spoiler.
Que les gens qui n'ont pas lu le livre sortent. Et donc voilà, c'était intéressant de montrer qu'elle n'était pas que victime, parce qu'il y a un moment où elle agit aussi.
Alors elles agissent tout un petit peu sur le même mode, parce que globalement, elles sortent un sabre, elles éventrent, elles étripent, elles tuent leur agresseur, mais quelque part il y a le goût de tuer qui se déclenche. Est-ce que c'est ça des femmes d'exception? Est-ce que c'est des femmes qui ont eu envie de tuer? Est-ce qu'il y a d'autres manières de devenir une héroïne exceptionnelle que celle-là? Ce serait un tableau bien sombre, et on a des héros qui ne sont pas nécessairement des meurtriers. Alors, mesdames et messieurs les auteurs, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin, en créant ces femmes magnifiques, complexes, admirables, intéressantes, de faire d'elles des meurtrières? Est-ce que c'était un passage obligé?
Well, they take place in fantasy worlds, and things tend to be about life and death in fantasy worlds, for starters.
Donc en fait, elles évoluent dans des mondes de fantasy, et souvent dans les fantasies, c'est des histoires de vie et de mort.
It's a difficult question because it does tend to happen that you have that your moment of high tension in the book is a life and death moment when the character needs to kill someone.
Et donc en fait, souvent on se trouve confronté à ce problème. En fait, dans le livre de fantasy, le moment fort, c'est souvent un moment où il y a un problème de vie et de mort, et où finalement le personnage se trouve obligé de tuer.
But I hope that that's only a part of their development, and that there's a whole book full of ways that they're showing to be strong and making independent decisions and becoming rich people who own themselves.
Mais en fait, ça n'est qu'une partie de leur développement, hein, il faut l'espérer. Et au travers du livre, elles ont aussi des tas d'occasions de se montrer fortes autrement et de se réapproprier leur vie et de gagner leur liberté, pas seulement à travers le meurtre.
C'est rassurant.
Charlotte?
Alors en fait, c'est simplement que c'était dans la marque de la bête, c'était la logique. C'était en fait, il s'est posé au moment de l'écriture la question de est-ce qu'elle le tue, est-ce qu'elle l'assomme, comment elle fait pour se débarrasser de ce père qui devient complètement incontrôlable et insupportable et qui l'emprisonne, et elle essaye d'abord, un peu comme dans le conte, de lui imposer des pseudo-épreuves pour s'en débarrasser, avoir le temps de s'enfuir, et son père en fait comprend, malgré son état d'ébriété et de folie, comprend ce qui est en train de se passer, et en fait ne lui donne pas d'autre choix que finalement prendre les armes contre lui et le tuer. Alors ce n'est pas une obligation, c'était une logique d'écriture. Et j'ai essayé dans Citeriae d'avoir une héroïne qui, pas une seule fois dans le roman, en fait, ne tue quelqu'un. Si elle prend des armes, c'est contre elle. Et en fait, j'ai perdu aussi mes mots, comme Christine tout à l'heure. Donc, ce n'était pas une obligation.
Notre douce et tendre Charlotte ne nous dit pas qu'après avoir tué son père, Bruna a quand même beaucoup d'autres envies de meurtre.
Oui, mais c'est pas forcément de sa faute. C'est pas vraiment de sa faute. C'est vrai qu'elle n'est pas toute seule, qu'on la pousse à vouloir, en fait, à vouloir tout simplement se dépouiller de son humanité. Je crois que c'est vraiment l'important, en tout cas pour moi, dans ce qui fait faire qu'une personne va être quelqu'un d'exception, c'est justement d'arriver à se construire, à accepter ce qu'elle est et surtout accepter l'autre. Alors l'autre, autant l'autre en tant que l'espèce de chose bizarre qu'on peut avoir au fond de nous, et l'autre qui peut être le monstre, qui peut être la personne aimée, et quelle que soit la personne.
I just want to say that I want to read your book.
Avant de me tourner vers Heyerdahl, pour qu'il n'évite pas le sujet, qu'il soit en plein dans la question qu'on voudrait lui soumettre, je vous lis un petit fragment de Transparence. Exemple. Automne 97 à Chicago, en pleine foule. Anne tue 4 personnes en 4 minutes sur 40 mètres de trottoir. Plus de 200 témoins interrogés, un seul capable de décrire une jeune femme rousse qu'aucune caméra de télésurveillance municipale n'a enregistrée. Le poinçon utilisé dans les 4 cas est l'une des armes favorites d'Anne. Mais le rapport de police et l'enquête du FBI sont formels. Aucun lien entre les 4 victimes, si ce n'est leur appartenance au sexe masculin. Aucun antécédent susceptible de justifier leur assassinat. Les 2 profilers consultés supposent que ce quadruple meurtre est un acte de défi et qu'Anne est entrée dans une phase ludique de son rapport avec les autorités. Ils annoncent qu'elle recommencera à frapper au hasard, n'importe où, n'importe quand, en prenant probablement de plus en plus de risques. Heyerdahl ?
Et alors là, je ne vois pas bien où est la question, mais je vais me faire plaisir d'y répondre. Alors, c'est un cas particulier parce qu'il se trouve en l'occurrence que l'extrait cité fait référence au premier chapitre du livre, ce qui est en quelque sorte le prologue, où on voit Anix abattre effectivement 4 personnes dont on sait que ce sont 2 infâmes flingueurs de la CIA. Voilà, alors c'est de l'autodéfense. Alors, est-ce qu'après on doit lui refuser le droit à l'autodéfense? Je ne sais pas.
Elle en tue beaucoup d'autres quand même.
Elle en tue beaucoup d'autres. On ne saura jamais combien de personnes elle a tuées. Parce qu'après, on se sert d'elle quand même pour faire flinguer des mecs un peu partout dans le monde. Qu'importe. Ce qui est intéressant dans la question globale, c'est notre rapport à la violence à tous. On la considère comme normale dans un nombre incalculable de cas. Je vais donner l'exemple de ces choses bizarres qu'on appelle les guerres, alors que ça soit disant pour libérer des peuples, comme en Irak ou en Afghanistan ou ailleurs. On trouve parfaitement normal d'aller flinguer à peu près n'importe qui, et surtout des gens qui n'y sont pour rien, et de faire de transformer en héros des lâches qui ont tiré sur des enfants ou des adultes non armés, etc. Et je ne comprends pas pourquoi une femme n'aurait pas la même lâcheté, la même capacité de violence et la même façon de l'exprimer. Et si j'ai souvent choisi des personnages féminins forts qui utilisent la violence, c'est parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi elle ne serait pas plus conne que nous. Ou violente, pardon.
Well, over the course of 3,000 pages, Phaedra kills exactly one person by her own hand, so I don't think she really fits the the profile.
Au cours des 3000 pages, Phaedra tue très exactement une personne, donc je ne sais pas si elle s'intègre véritablement dans ce profil.
But she has her counterpart, the yang to her yin, which is her eventual love interest. Not a huge spoiler, who's a formerly celibate warrior priest, because how else do you offset a masochistic courtisan? And
par contre, sa contrepartie, le yang de son yin, c'est-à-dire qui devra, avec qui elle vivra, finira par vivre une aventure, ce n'est pas un gros spoiler de le dire.
ça vous donnera envie de le lire de toute façon.
Qui était un ancien prêtre guerrier célibataire, parce que bon, comment on peut faire autrement pour escorter ce genre de courtisane sans être un ancien prêtre guerrier célibataire?
But in the one instance that she is forced to kill in self-defense, it's not a moment of high drama. It's a very minor character who is of the enemy, but someone who was kind to her. And I wanted to use that moment to illustrate how intimate and terrible and difficult it is to take a life.
Dans l'exemple très précis, là où elle est forcée de tuer une personne par, en légitime défense, ce n'est pas du tout un moment très dramatique, un sorte de sommet de l'intrigue. En fait, c'est un ennemi finalement assez mineur, c'est même quelqu'un qui était plutôt sympathique et gentil avec elle, mais qui se trouve être un ennemi, mais un ennemi assez mineur. Et je voulais justement mettre en avant le fait que c'est tellement difficile, complexe et d'ailleurs intime de tuer quelqu'un.
Alors j'avais envie de vous demander à tous, puisque vous avez construit des personnages féminins aussi remarquables et marquants, quelles étaient les lectures, quelles images vous aviez d'héroïnes dans vos lectures, et en particulier vos lectures de jeunesse. Comment vous vous êtes construit des représentations de femmes fortes? Avec quels livres?
Strong character I've ever read, men and women were became the model for my own strong women when I was young. Oh, go ahead.
Donc je pense que finalement un petit peu tous les personnages forts, qu'ils soient hommes ou femmes, que j'ai pu lire dans mon enfance, ont finalement servi un peu de matériau à construire ce personnage de femme forte.
When I was young, reading whatever book, let's say Lord of the Rings, just because it's very well known, I would imagine myself in the male role.
Quand par exemple j'ai lu des bouquins comme Le Seigneur des Anneaux, hein, qui est une référence très très connue, forcément j'avais tendance à m'identifier au héros masculin.
And I think that all of those characters that I read, combined with a little bit of anger from a strict Catholic upbringing, combined to build my strong women.
Et je pense que finalement tous ces héros masculins combinés avec une certaine dose de colère issue d'une éducation catholique très stricte ont fait que c'est ressorti à travers des personnages féminins très forts.
I think one of the reasons I wanted to write a hopefully exceptional heroine is there simply weren't a lot that I read growing up. Nancy Drew. I remember reading Dune and being delighted to find strong female characters. Not actual protagonists, but they were women and they were strong.
Je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai eu envie d'écrire des héroïnes exceptionnelles, c'est parce que, en ce qui me concerne, il n'y en avait pas beaucoup dans ce que je lisais quand j'ai grandi. Peut-être Nancy Drew, Dune aussi, où j'ai été absolument ravi de découvrir des femmes fortes dans Dune, même si ce ne sont pas des protagonistes de premier plan, ce sont des femmes et elles sont fortes.
I think there are a lot more wonderful female role models available now, and that's one of the things we're here celebrating.
Je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de personnages qui peuvent être des modèles féminins merveilleux. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est là, à célébrer ça.
Tout à fait. Quelqu'un, Charlotte ?
Bon, moi, je vais être très sobre. Malheureusement, ayant appris à lire bien après avoir appris à écrire, je n'ai pas la chance, dans ce qui a motivé mon imaginaire, de pouvoir me référer à des ouvrages, si ce n'est tous ceux qu'on a déjà cités, bien sûr. Au-delà de ça, je crois que j'ai eu aussi la chance de croiser dans ma vie d'avant l'écriture et après dans ma vie d'écrivain, énormément de femmes qui ressemblent à mes personnages principales féminines. Mes personnages principales, c'est joli ça. Vous oubliez les fautes, hein, j'écris, je ne parle pas. Et elles sont... oui. Mes femmes fortes, j'aime pas dire ça, c'est pas beau. Enfin, mes femmes qui ont le droit d'être des femmes à part entière et de s'exprimer comme des êtres humains à part entière, elles sont nées de mes amis, de ma famille, de ma mère, de mes cousines, de toutes ces femmes que j'ai rencontrées, qui n'avaient pas été complètement écrasées par la phallocratie dans laquelle un certain nombre d'entre nous ont eu la chance de grandir.
On dirait du Almodovar, ce que tu dis.
Alors là, il va être fâché, Pedro. Hein.
Bon, moi, le premier, j'ai presque honte, mais c'est Fantomètre. Enfin, je sais pas, lecture de jeunesse, je suis désolée, il y a Fantomètre. Fantomètre, Côte d'Orcelle, et après, il y a un grand vide. Donc après, moi, je suis passée plutôt par la littérature générale, et beaucoup, beaucoup de personnages de tragédie. Bon, notamment Hermione, la Hermione d'Andromaque, Phèdre. Aussi beaucoup de personnages de contes, de mythes. Et puis, quand j'ai commencé à lire de la fantasy, jusqu'à ce que je commence à lire Mercedes Laquais et puis Marion Zimmer Bradley, je trouvais que c'était, c'est vrai que c'était assez un vide intersidéral en matière de femmes. Et je crois que j'ai simplement écrit des personnages que j'avais envie de lire. Je crois que c'est venu du coup assez naturellement. Mais je tenais à rendre hommage à Georges Cholet.
C'est vrai qu'on a entendu citer quelques grandes références. Fantomètre n'est pas la moindre. Il y avait le Club des Cinq aussi. Dans la science-fiction, on a eu des femmes qui étaient quand même souvent le repos du guerrier, des mères. Dans la fantasy, on a eu des fées, des elfes, des créatures éthérées. Et c'est quand même très important de voir des femmes avec des vraies substances et de l'intensité, mais pour lesquelles le plaisir reste quelque chose de très important. Je crois que leur quête à toutes, c'est la liberté et c'est le plaisir. À propos de plaisir, on a eu quand même quelques personnages féminins apparus par le cinéma qui revendiquaient leur émancipation sexuelle. C'est aussi une des thématiques qu'on partage ici. On parle peu de l'émancipation sexuelle des hommes, elle doit déjà être acquise. La nôtre est visiblement une préoccupation encore. Je pensais à des personnages comme Emmanuel ou Angélique. Est-ce qu'elles vous ont inspiré ou guidé?
I can answer that easily since I'm not directly familiar with either of them, although I know of them. No.
Je peux répondre facilement parce que je ne les connais pas très bien, j'en ai entendu parler, donc, mais la réponse donc sera non.
I did see Emmanuel, but it was a long time ago, so it probably soaked its way in, but not directly.
Donc j'ai vu Emmanuel, mais c'était il y a longtemps. Alors peut-être qu'effectivement, ça s'est resté quelque part dans ma tête et ça a peut-être influencé, mais indirectement.
And that is a very actually a very valid thing that does happen. I will reread or rewatch things ages after I've written them and suddenly realize, oh my goodness, I'm a plagiarizer. You know?
Et donc, il m'arrive quelquefois de tomber sur des références comme ça, très longtemps après que j'ai écrit quelque chose, et de me dire, mais bon sang, je suis une plagiaire. J'ai copié.
Je crois qu'il n'était pas du tout question de la notion de plagiat, mais qu'on n'a pas tant de grandes références partageables sur la question de l'émancipation et de la liberté sexuelle. Et il ne s'agit pas du tout de réduire l'approche que vous avez eue à ces clichés ou ces mythes fondateurs. Vos personnages ont une dimension romanesque et un contexte et une intensité, une personnalité beaucoup plus riche que ce que j'évoquais. Mais quels sont nos mythes fondateurs? On invente toujours à partir de quelque chose. C'est pour essayer de savoir sur quoi vous avez construit.
There's also the option of reacting against them.
Il y a aussi la possibilité de réagir contre quelque chose.
And I'm drawing on, in part, on Judeo-Christian tradition and the characterization of Mary Magdalene as a prostitute, which is probably historically inaccurate. But in making prostitution sacred in Terre d'Ange, very much a reaction against a founding myth.
par exemple en partie contre la tradition judéo-chrétienne, par exemple qui présente Marie-Madeleine comme une prostituée, ce qui est probablement faux d'ailleurs, mais justement en prenant l'inverse et en faisant de la prostitution quelque chose de sacré.
Ça, c'est trop beau, bon. Je dirais que c'est un petit peu mélangé. Tu parlais de, d'émancipation. En fait, j'ai été très marquée par les liaisons dangereuses. Alors, je sais que l'intention de Laclau était vraiment, à la base, de faire un manuel d'éducation pour les jeunes filles. Mais je crois que l'éducation qu'on en retire, surtout dans la bouche de Madame de Merteuil, de la Marquise de Merteuil, c'est justement apprendre à exister par soi-même et chercher le plaisir et prendre le plaisir où on le trouve, en avançant caché parce qu'on n'a pas le choix. Mais je crois que c'était un des premiers. Je ne sais pas si c'est un modèle, je pense que Madame de Merteuil doit être toujours quelque part dans ma tête et que c'est effectivement inconscient. Et un des d'autres personnages comme la courtisane Véronica Franco qui ont effectivement dû profondément me marquer, toutes ces femmes réelles ou de fiction qui se sont quelque part imprimées en moi, ou pareil, bon bah je faisais allusion tout à l'heure à la tragédie. Je trouve que Hermione est un personnage magnifique, alors probablement oui, il y a ce genre de choses. Alors après, c'est pas très plaisir, mais en tout cas elles sont là.
C'est intéressant parce que les liaisons dangereuses, on a un personnage extrêmement manipulateur, et en même temps je pense que ça met en évidence quelque chose, c'est que les femmes que vous avez créées, elles agissent sur les individus qui sont autour d'elles, elles sont dans le relationnel avec l'interlocuteur proche. Ce ne sont pas des héroïnes au sens où sont souvent les héros, c'est-à-dire des personnes politiques qui interagissent avec des foules, avec la société. Elles ne souhaitent pas avoir un rôle social. Elles souhaitent aller au bout de leur épanouissement, de leur liberté, de l'exercice de leur pouvoir personnel. Elles n'ont pas apparemment d'autres ambitions que celles-là. Avez-vous l'intention d'explorer aussi cette facette d'une autre forme de pouvoir plus collectif ?
C'est tout à fait vrai pour mes deux derniers romans. Malheureusement, comme j'en ai écrit 21 sur les 19 autres, elles sont extrêmement impliquées politiquement et leur seul engagement dans l'existence passe par leur volonté d'être des citoyennes à part entière et de faire changer le monde ou les mondes. Donc, je fais l'impasse sur la réponse.
En fait, je crois que mon intérêt, c'est avant tout la quête d'identité. C'est des femmes qui sont peut-être mues par des passions, mais qui sont surtout en quête d'elles-mêmes. Alors, peut-être que, oui, un des proches de mes prochains personnages sera quelqu'un, non pas en quête de pouvoir, mais qui utilise le pouvoir qu'elle a pour se venger et pour arriver à ses fins, mais ça reste justement, le pouvoir n'est pas une fin mais un moyen, donc c'est jamais je pense pas que ce soit forcément le ce qui m'intéresse le plus, la quête de puissance, la volonté de puissance.
I think sometimes too that as a writer you start a book and don't realize until you're into it what the power issues are.
Je pense que en tant qu'écrivain, quelquefois on commence un livre et puis on se rend pas compte quelles vont être les implications du pouvoir.
The book that I'm writing now is connected to these books. It's called Bitter Blue and the main character is a 16-year-old queen.
Et le livre que je suis en train d'écrire actuellement est en fait en relation avec l'univers de Graceling et Rouge, puisque le personnage principal s'appelle Bitter Blue et c'est un personnage qui a 16 ans et qui est reine.
And I began my writing thinking about the power of identity and understanding yourself, which are themes of the other two novels.
Et lorsque j'ai commencé le roman, je pensais partir justement sur le pouvoir, mais autour de la thématique de la recherche de l'identité, de savoir qui on est, un peu comme dans Rouge et dans Graceling.
And then partway through realized, I don't know anything about what it a queen does or what a queen needs to do, or I have been doing a lot of political reading and a lot of self-education.
Et finalement, je me suis rendu compte, mais je ne sais pas du tout ce qu'une reine doit faire et qu'est-ce qu'elle peut ressentir. Et donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches et de lectures politiques pour essayer de cerner mieux le personnage.
So my point is just that it isn't necessarily the themes of the book relating to power aren't necessarily the themes you intended. They are sometimes the themes that arise.
Et quelquefois, le thème du pouvoir n'est pas nécessairement le thème qu'on recherchait au départ, mais simplement c'est un thème qui arrive et qui se trouve projeté là, alors qu'au départ on pensait écrire sur autre chose, comme la quête de l'identité.
I kept my heroine too busy to contemplate other aspects of power. She's constantly trying to save the world in one way or another. No time for reflection.
J'ai probablement tenu mon héroïne trop occupée pour qu'elle réfléchisse à d'autres formes de pouvoir. Elle est toujours en train d'essayer de sauver le monde d'une manière ou d'une autre, donc elle n'a pas eu trop le temps de réfléchir à autre chose.
Très bien, mais écoutez, on a fait, je crois, qu'effleurer la question. Elle méritera d'être prolongée, mais je crois qu'elle sera prolongée par nos lectures. Je crois que nous pouvons remercier les quatre auteurs ici présents qui nous ont donné à rêver avec de magnifiques personnages en haut en couleur. Et je vous invite à aller chercher leurs livres et à les rencontrer dans l'espace des libraires. Et bonne lecture.